Monsieur Balzac, je vous remercie vivement que vous me recevez aujourd'hui.
Ah, écoutez, tout le plaisir est pour moi. Commençons tout de suite, si vous voulez bien.
Monsieur, vous avez commencé comme libraire.
Ah, ne m'en parlez pas. Ce fut un échec, n'en parlons plus.
Bon, ensuite vous avez commencé à écrire des romans pour la Comédie humaine il y a bientôt 18 ans.
15 ans plutôt, 15 ans. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, je n'ai écrit que des romans que j'avais intitulés « Scènes de la vie privée ». Le titre « Comédie humaine » est tout récent, en fait. Vous savez que c'est un immense projet, mais heureusement, Madame Hanska me soutient beaucoup.
Et quel était votre point de départ ?
C'est très simple. L'idée première de la « Comédie humaine » était d'abord un rêve, c'est-à-dire comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? C'était une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme, mais qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Et cette chimère devenait pour moi une idée de plus en plus réaliste, et j'ai découvert qu'elle venait d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité.
En somme, l'homme et les animaux ?
Cela vous étonne ? Je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à observer les disputes entre les savants toutes ces dernières années, écoutez, le créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure dans les milieux où il habite. Les espèces zoologiques résultent de ces différences, et la société ressemble à la nature. La société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie, n'est-ce pas? Les différences entre un soldat, par exemple, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un savant, un homme d'État, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, que sais-je encore, toutes ces différences, donc, sont aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Or, il est vrai, les différences entre les hommes sont plus difficiles à saisir. Buffon a fait un livre sur l'ensemble de la zoologie, avec toutes les espèces zoologiques. C'est facile de concevoir l'idée de faire un livre avec toutes les espèces sociales, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas comparer l'animal à l'homme. Si vous parlez du lion, vous achevez de parler sur la lionne, en quelques mots. Mais si je parle de l'homme, alors là, je dois encore parler beaucoup plus longtemps, parler de la femme, car dans la société, la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle, vous voyez.
Et dans votre préface, vous citez à ce propos...
Vous avez lu la préface, cela me fait plaisir, oui. Je l'ai écrite il y a 2 ans. En effet, j'ai écrit « La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'état social a des hasards que ne se permet pas la nature, car il est la nature plus la société. Vous savez bien que l'animal a peu de mobilier, il n'a ni art, ni science, tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher encore, tend à représenter ses mœurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il approprie à ses besoins.
Ah, c'est tout à fait intéressant, monsieur. Vous parlez d'une loi ?
Oui, une loi, effectivement. Oui, je pense que notre société est régie par une loi, par des lois. Je ne parle pas des lois du gouvernement, je parle des lois sociologiques. Mais c'est difficile de trouver de telles règles pour la vie sociale. Il y en a, mais on ne peut pas les rendre absolues. Donc, après avoir parlé de la vie sociale, je me suis aussi intéressé aux scènes de la vie politique qui sont en quelque sorte hors la loi commune. De là, les scènes de la vie politique. On y découvre une société plus violente, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête.
Très bien. Et il y a 2 ans, vous avez terminé « Les illusions perdues ». Et cette année, la femme de 30 ans.
Oui, et les paysans, et je termine en ce moment, Modeste Mignon. Remarquez, vous qui avez lu ma préface à la Comédie humaine, vous savez que j'ai classé tous les romans dans trois grands chapitres, ce qui est important pour bien saisir le sens de la portée de la Comédie humaine. Dites à vos lecteurs qu'ils relisent la préface, celle que j'ai écrite il y a 2 ans. Ils trouveront tout ce qu'il faut savoir sur la structure de mon œuvre.
En fait, votre préface s'appelle « Avant-propos », n'est-ce pas ?
Mais vous avez évoqué les illusions perdues. Permettez-moi de recommander rapidement ce roman à vos lecteurs. C'est l'histoire de David Séchard et Lucien de Rubempré. L'un doué pour la poésie, qui doit sacrifier son talent à l'imprimerie familiale, l'autre, Lucien, son beau-frère, qui finit par aller à Paris. Madame de Bargeton l'accompagne, mais l'abandonne dans cette grande ville, un vrai labyrinthe dangereux. Et il rencontre tous les acteurs de la Comédie humaine. Il réussit et échoue. Il trouve son malheur et son bonheur, ballotté constamment entre le succès et le désespoir. Mais ça, monsieur, c'est la vie.
C'est merveilleux de vous entendre parler de vos livres. Je voudrais tant encore citer d'autres de vos romans.
Ah non, je dois encore rédiger 2 chapitres que j'ai là en tête déjà.
Vous me permettez encore 2 questions ?
Ah oui, allez-y, mais vous savez, les 2 chapitres attendent leur rédaction.
Alors, la première question, ce serait: comment définissez-vous le rôle de l'écrivain dans la société ? Y a-t-il une morale pour vous ?
C'est une question importante que vous me posez. Il semble que vous ayez vraiment bien lu ma préface, oui. Bien entendu, l'écrivain doit défendre une morale. Dans la préface, c'est ici, oui, j'ai bien écrit « La loi de l'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'État, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibniz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'État appliquent. Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées. Il doit se regarder comme un instituteur des hommes, car les hommes n'ont pas besoin de maître pour douter, a dit Bonald. J'ai pris de bonne heure pour règle ces grandes paroles qui sont la loi de l'écrivain monarchique aussi bien que celle de l'écrivain démocratique.
Ah, je voudrais quand même vous demander que vous précisiez cela. De quelle morale s'agit-il ? Par exemple, vous défendez le christianisme ?
Oui et non. Je voudrais apprendre à mes lecteurs de voir toujours les 2 faces et pas seulement celle du christianisme, monsieur. Mes romans ont une âme qui leur sert de base. Je suis convaincu que l'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. La société est loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau. Elle le perfectionne, elle le rend meilleur. Mais attention, l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Regardez le commerce, pas celui dans mes livres, mais dans la vie, vous voyez. Toutes les tentations pour les hommes de devenir méchants, hein ? L'argent, je vous le répète, l'argent sera toujours la grande tentation des hommes. Et vous avez cité le christianisme qui est, lui, comme je l'ai dit dans Le Médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme. J'étais toujours très clair sur ce point, mais en même temps, le christianisme est le plus grand élément d'ordre social. Il ne faut jamais oublier ces 2 faces. Son grand succès, le succès du christianisme, c'est l'ordre social. Il est vrai, cependant, si on considère sa face un peu cachée, on peut être effrayé. Bon, ça vous va comme ça ? Je ne voudrais pas être impoli, mais...
Les 2 chapitres veulent voir le jour.
Oui, vous avez raison.
Monsieur, avant de vous quitter, je voudrais encore vous demander de lire, comme vous l'avez promis d'ailleurs, les 2 premières pages de « La femme de 30 ans ».
Vraiment ? Ah, je suis content que vous ayez choisi ce roman. Attendez. Oh. Il y a tant de livres ici. C'est où ? Alors, ah, le voilà. Alors, je vais lire les 2 premières pages.
Alors, juste pour donner envie à nos auditeurs de lire votre roman eux-mêmes.
D'accord. alors allons-y.